Bien fait. On avait commencé Shalom à tous, Shavua Tov. On avait commencé l'explication de Vayere Veivoker, la nuit, la soirée et le matin. On avait expliqué qu'il y a tout le temps dans l'histoire d'Israël une préparation, une réalisation. Est-ce que par rapport au cours de la semaine dernière, d'abord, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Avant de commencer, parce que ça va un peu se compliquer.
Alors, il y avait juste la frise que vous avez dit, je crois qu'on n'a on a pas envoyé.
Je l'ai envoyé à David Altar sur son mail, donc on va vous la distribuer.
On va voir ça.
Donc, il n'y a pas de questions. Très bien, il y a Femoron. Moi, ça ne me dérange pas si vous ouvrez les écrans. C'est plus simple pour moi, comme ça je vois des visages et pas des écrans noirs. Aval Beseder, chacun comme il décide. Alors, regardez. Nous avons ici, je vous ai résumé ce qu'on a ici par rapport au Vayere Vayivoker, soir et matin. Je vais reprendre les dernières étapes qu'on a vues. On a vu le premier temple. Quand on parlait du premier temple, la construction du premier temple de Jérusalem, Beth Amikdash HaRishon, ça va être avec l'époque du roi Salomon, du roi Shlomo HaMelech, le roi Shlomo, le fils de Dieu du roi David, qui va construire le premier temple. Et pendant une époque de 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, d'après les Chachamim, ça va être l'âge d'or du peuple d'Israël. C'est quoi l'âge d'or du peuple d'Israël? On est le peuple d'Israël sur sa terre. On n'est pas seulement sur notre terre, mais on a notre royauté, le roi Salomon, descendant le fils de David. Ça va être en fait le Mashiach ben David. Pourquoi Mashiach ben David? Parce que c'est le Mashiach, le roi Ouin, Mashiach c'est Ouin, ben David, fils de David. On pensait qu'on était arrivé à l'époque du Mashiach, puisqu'il était vraiment le fils de David. Et quand est-ce qu'on va savoir qu'on pensait vraiment que c'était le Mashiach? Parce qu'il va réussir à construire le Beth Amikdash, le premier temple de Jérusalem. Et pendant 1 an et demi, le peuple, l'État d'Israël, à l'époque, va connaître son âge d'or. Maintenant, vous savez que même si ce cours-là, c'est un cours de Emouna, et tous les cours de Emouna, il faut qu'il y ait un rapport avec la Halakha. Ce n'est pas deux mondes, c'est comme le corps et l'âme. Tu ne peux pas dire qu'il y a le corps et ce qui se passe dans le corps, ça n'a rien à voir avec l'âme. Ou ce qui se passe dans l'âme, ça ne se dévoile pas dans le corps. Juste, forcément, il y a un lien. Lorsqu'on étudie la Torah, il y a toujours le côté ésotérique de la Torah, le côté secret de la Torah, le côté moral de la Torah et le côté émouna de la Torah. C'est ce qu'on est en train d'étudier, la émouna, ce que vous étudiez ici dans une Yeshivat Online. Mais à chaque fois qu'on parle de Emouna, de quelque chose d'intérieur, de l'intériorité des choses, de la connaissance intérieure des choses, forcément, ça doit être réalisé dans la Halakha, dans le monde extérieur. La Halakha va être comment réaliser dans le monde extérieur ce qui se passe au niveau de l'âme, au niveau de l'intériorité. Alors, Nachon, on ne va pas déranger, vous n'allez pas déranger à chaque fois un rave qui va vous donner un enseignement en lui demandant où ça se réalise dans le monde de la Halakha. Parce que ça serait long à expliquer et voir dans quel, mais c'est une étude importante à faire. Mais je vous donne un exemple très simple. Lorsque les Chachamim nous disent que c'était l'âge d'or du peuple d'Israël, Shlomo, on avait le Beth Aminash, on avait le temple, on avait des prophètes, Shlomo était un roi tzaddik qui craignait Akadosh Baruch Hu, c'était waouh! À tel point que toutes les nations du monde venaient à Jérusalem écouter la sagesse de Shlomo. Tout le monde connaît l'histoire de la princesse de Sheba, la reine de Sheba, qui est venue voir la sagesse du roi Salomon, etc., etc. Donc, c'est arrivé au summum de l'âge d'or du peuple d'Israël. Où ça se dévoile au niveau de la halakha? Une halakha très bizarre qui dit la chose suivante. Il dit, on n'a pas le droit de recevoir des convertis, des goyim qui veulent se convertir. Ça va? À l'époque du roi Salomon, à l'époque du roi Shlomo, on ne recevait pas des convertis. Pourquoi? Parce qu'on avait peur que l'intérêt de devenir juif n'est pas pour s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu, d'Hachem, mais par intérêt politique, par intérêt économique, par intérêt d'avoir des droits de citoyen et d'appartenir à un grand empire. Et c'est pour ça qu'à l'époque de Shlomo, pendant une certaine période, on n'a pas accepté un converti au sein du peuple d'Israël. Maintenant, pourquoi je vous parle de cette halakha? Je parle de cette halakha parce que ça s'est réalisé. Ça se réalise de nos jours aujourd'hui. Il y a beaucoup de problèmes à recevoir des convertis parce que des fois, il y a beaucoup d'intérêt au niveau politique de devenir israélien. Pourquoi je vous fais sentir ça? Parce que de notre époque, on revit cette époque très grande qui était l'époque du roi Salomon. Mais cette époque du roi Salomon, Elle a duré qu'un an et demi. Elle va durer qu'un an et demi. Ensuite, il va y avoir une chute terrible. Ça, ça va être la période du premier temple. Mais même s'il y a une chute terrible au niveau spirituel, on va toujours avoir le temple à Jérusalem, toujours avoir des prophètes et toujours avoir des rois. Il va y avoir deux royaumes, royaume de Judée et royaume du Nord, certes. Il va y avoir deux États d'Israël, ça va être le traumatisme de l'ONU à l'époque, deux États d'Israël, deux présidents, deux rois d'Israël, deux armées d'Israël. C'était très dur pour l'ONU d'accepter une chose comme ça. Mais c'est un fait. À la fin du premier temple, il va y avoir la destruction du premier temple avec Nebuchadnezzar, Nabucodonosor. On va partir 70 ans en exil et on va revenir. Et lorsqu'on revient, il va avoir un événement terrible. C'est quoi ? C'est la disparition de la prophétie. C'est la fin de la prophétie. Lorsqu'on reconstruit le second temple, c'est la fin de la prophétie. Maintenant, on se pose la question. Je vous ai mis dans le tableau qu'on a environ les 500 ans de l'époque du premier temple, avec le roi, les prophètes, le Beth Amikdash, où il y a la présence divine. Le premier Beth Amikdash, on avait fini ça comme ça la semaine dernière, il y avait la présence divine, il y avait les Shekhinah. On va au second temple et on dit c'est la réalisation, alors qu'il n'y a plus de prophètes, le temple, il n'y a plus de présence divine, les rois qu'il y a, pas avant Hanouka, on va avoir des rois juifs, et même après, c'est des rois catastrophiques, c'est les rois qui viennent des Asmonéens, hein, c'est après l'histoire de Hanouka. Comment on peut parler de réalisation ? Alors, regardez, ce qu'on a vu, le potentiel pendant l'époque du premier temple, ça va être construit par l'homme. Ce n'est pas du haut vers le bas, ce n'est pas de Hachem vers l'homme, c'est de l'homme qui se tourne vers Akadosh Baruch Hu. Ce n'est plus la prophétie que Hachem donne la prophétie aux hommes, là, c'est l'homme qui va travailler pour essayer de comprendre la sagesse divine. Ce n'est plus la période de la prophétie, mais c'est la période de la, et c'est à vous de me dire, qu'est-ce qui va remplacer la prophétie ? Allez, on va faire Rabbi Yosef Taïeb, shalom. On a la chance d'avoir un Maïtan parmi nous. La place de lundi soir, qu'est-ce qui va apparaître ? Et ça, c'est très important, parce que c'est en rapport direct avec le Kuzari. Le Kuzari, je vous expliquer pourquoi c'est en rapport, quand vous allez me donner la réponse. Disparaît la prophétie, la névoie. Et la névoie laisse la place à quoi ? On est dans la réalisation, mais comment on va retrouver la prophétie ? La prophétie.
Philosophie.
Par quoi ? J'ai pas entendu.
Par les sages, par les.
Bien fait. Ça s'appelle la chorma, la sagesse. Chez les Goïm, ça va partir dans la philosophie. Et dans le Ham Israël, ça va partir en ce qui s'appelle la Torah orale, qui va être écrite. Toute l'époque de nos sages qui vont commencer par l'époque des Anshe Knesset Agedola, les gens de la Grande Assemblée, les sages. On va former les sages de la Grande Assemblée par Ezra. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va commencer ? La Chorma. Mais l'erreur, et c'est la grande erreur, chez les Goïm, cette sagesse-là, elle va prendre effet en son envol et elle va s'exprimer dans la philosophie. Les sciences et la philosophie, on va mettre ça ensemble. Dans l'âme d'Israël, ça va être la sagesse d'Israël. Ça va être l'étude. On va mettre la place à nos sages qui vont écrire, qui vont être des Tanaïm, qui vont apparaître dans la Mishnah. Bien plus tard, on verra dans la Gemara. On met en avant l'étude, la sagesse juive de l'étude. Mais qu'est-ce qui se passe ? Extérieurement, on a l'impression qu'il n'y a aucune différence entre la sagesse philosophique, on étudie aussi la sagesse, on se tourne vers l'intellect, et la sagesse juive, qui est aussi intellectuelle. Et donc, à l'époque, et là, ça va être Rabbi Yehuda Lévi qui vient casser ce mythe-là, que même la sagesse d'Israël, elle se veut réalisation ou elle veut récupérer la névoie, la prophétie. Tandis que la philosophie, les pensées goïm ne veulent pas se rattacher à la philosophie. Elles restent au niveau de l'humain. L'humain avec lui-même, refermé sur lui-même. Tandis que la Torah, l'étude de la Torah, qui a priori se tourne uniquement vers l'intellect, c'est une erreur. C'est l'intellect qui est prêt pour recevoir le message divin. Ça reste philosophique. De point de vue extérieur, on peut se tromper. On peut croire qu'il y a la même d'étudier dans une yeshiva ou une université, ça va être la même. C'est pas la même appréhension et c'est pas la même méthode. Nous, grâce à l'étude, on va être prêt à recevoir le message. Quel rapport avec le Kuzari? Parce que le Kuzari, c'est comme ça qu'il commence. On a expliqué il y a 2 semaines que le Kuzari commence par le rêve. Et le rêve, ça se rattache plus à la Chochma, à la sagesse, ou l'intellect, ou ça se rattache plus à la Nevoa. Ben, bien sûr, la Nevoa. Le rêve, c'est la Nevoa. Rabbi Yehuda Halevi commence son livre, qui est un livre avec des preuves, qui est un livre avec des explications. Il commence par quelque chose de prophétique. Il commence par un rêve qui est prophétique. Et des personnes, je pourrais comprendre, qui commencent à lire le livre de Kuzari, ils disent « Attends, les rêves, moi, je n'y crois pas, je ferme le livre. Ce livre n'a rien à apprendre pour moi. » Mais la sagesse juive, que même si aujourd'hui, on n'a plus la prophétie, et on se tourne vers l'étude, ce n'est pas une étude intellectuelle uniquement, c'est par l'intellect, on va développer notre intellect, notre connaissance, notre sagesse pour recevoir la prophétie. Et ça, c'est le but de Rabbi Yehuda Halevi. Et c'est pour ça qu'il s'est tourné vers les philosophes. Ensuite, les religions. Les religions, elles disent qu'il n'y a que le divin. Les philosophes vont dire qu'il n'y a que l'humain. Et nous, tout le temps, l'homme Israël, on est au milieu. On est au milieu. Le divin appelle, parle à l'humain. C'est ça, là ? Maintenant, où ça va se passer dans notre histoire ? À l'époque du Second Temple. Le Second Temple, vous avez Seder ? Il a fait. Après l'époque du Second Temple, catastrophe, ça va être le début de l'exil. Maintenant, l'exil, j'ai pris ici le rêve de l'exil, la nuit de l'exil, la première partie, on parle. C'est après la destruction du Second Temple, il va avoir l'écriture de la Gemara. L'écriture de la Gemara, ça va être cette étude énorme qui va se réaliser dans la terre de Babel, en Irak. Elle va être finie d'être écrite, la Gemara, en l'an 500. Je parle en goy maintenant pour simplifier les choses, vous allez voir. En l'an 500, elle va être finie. Et c'est la première partie de cette étude qui va être écrite avec, je poursuis, avec l'étude, avec l'apparition des Géonim. Regardez ici, c'est un peu plus petit pour vous, mais j'explique. En l'an 200, je parle en goy, encore une fois, en l'ère vulgaire, l'an 200, c'est l'écriture de la Mishnah. Ça appartient encore à la fin du Second Temple. La Mishnah a été finie d'écrire en l'an 200, et de l'an 200 en l'an 500, c'est l'écriture de la Gemara, ou en tout cas, c'est les discussions de nos Amoraïm, qui sont les docteurs de Torah à l'époque de la Gemara, qui sont au début en Israël et en Babylonie, et à la fin seulement en Babylonie, à Babel, c'est l'Irak d'aujourd'hui. Et là-bas se va développer le peuple d'Israël en dehors de sa terre. Et ça, c'est très important. Le peuple d'Israël va se développer en dehors de sa terre. Pourquoi à Babel? Une raison très simple. On leur permet d'étudier leur Torah, d'avoir une certaine autonomie politique, d'avoir le Resh Geluta, le Rosh, celui qui est à la tête du peuple juif pendant l'exil. Et on peut vivre en tant que juif à Babel et étudier la Torah et développer notre culture autour de l'étude de la Torah uniquement et des mitzvot, etc., sans pogrom, sans problème financier, etc., etc. Après la période du Talmud, pendant 500 ans, il va avoir l'époque des Géonim. Les Géonim, c'est aussi à Babel, c'est Rav Sadia Gaon, c'est Rav Shrira Gaon, c'est Rav Hai Gaon, Gaon Gematria 61, pourquoi 60? Pourquoi? Parce que c'est les 60 traités qui existent dans la Torah orale, ils connaissaient tous les traités, c'était des génies, Gaon veut dire, c'était des génies de la Torah qui étaient concentrés à Babel. Et là commence l'histoire. Quand nous sommes l'époque des Géonim, il y avait un centre, un merkaz de Torah d'Israël qui était à Babel. Il y avait des Juifs dans le monde entier qui étaient éparpillés. Il y en a qui retournent du temps du premier temple. Même Ezra, il va écrire aux Juifs d'Ashkenaz. Vous entendez ce que lors de la construction du second temple, il y avait des Juifs déjà en Ashkenaz. Il est ordonné de remonter à Yerushalayim. Les Juifs d'Ashkenaz, du Ezor d'Europe de l'Est, l'Allemagne, ils disent non, nous sommes très bien en Ashkenaz. Ils ne veulent pas reconstruire le second temple. Donc, on a des Juifs dans le monde entier, mais tout le monde est conscient, dans la conscience juive et de Torah et de notre nation, que le centre de la Torah et le centre du peuple juif se trouve à Babel. Et ça, pendant une époque de 500 ans. Toutes les questions de Torah étaient dirigées en Irak. des lettres étaient envoyées de questions pour répondre à des problèmes de la communauté de tel et tel exil. Tout était concentré autour de Babel. Babel était le centre de notre nation, était le centre de la Torah. Et on y a passé presque près de 1000 ans. Vous vous rendez compte? 1000 ans après la destruction, on va être en Babel jusqu'à l'an 900. La destruction du temple, c'est 68. Donc, vous sentez qu'il nous, toute cette époque-là, le Ham Israël, il a toujours été soit en Eretz Israël.
Le Gaonim, c'est 960.
Après la Mishnah, après la Gemara, la majeure partie du Ham Israël est au Babel. En tout cas, les dirigeants de Torah, les richesses, etc. Et même les juifs du monde entier, lorsqu'ils portent, ils apportent, ils posent des questions au Gaonim pour répondre aux problèmes du temps et de la halakha, et de savoir comment le Ham Israël doit se comporter, etc., la halakha, la marche à suivre, ils aident financièrement ce centre énorme de Torah, Babel. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce que sans la terre d'Eretz Israël, et je préfère que ce soit moi qui pose la question, ceux qui me connaissent, alors ils vont rire, ceux qui ne me connaissent pas, bon, ils peuvent dire que c'est une vraie question. Est-ce qu'on peut vivre sans la terre d'Eretz Israël? Allez, moi je suis de Yerushalayim, de Jérusalem, de Mahon Mir à Jérusalem, je pose la question suivante. Est-ce que le Ham Israël peut vivre sans la terre d'Eretz Israël?
Non.
Non, je veux d'autres réponses. Moi, j'aurais pu dire votre réponse. D'autres réponses.
Neshana Abba Birushalayim.
Neshana Abba Birushalayim. Donc, on peut survivre. On peut survivre parce que pendant 2000 ans, on a dit les Shana Abba Birushalayim, l'an prochain à Jérusalem. C'est-à-dire qu'on peut survivre, vivre. Peut-être pas, mais survivre sûrement. Et on a appris quelque chose d'assez exceptionnel que dans l'histoire qu'on avait vue, etc. On a passé plus de temps en dehors de la terre d'Eretz Israël, notre peuple, notre nation, que dans la terre d'Eretz Israël. On a passé beaucoup plus de temps en dehors de la terre que dans la terre. C'est-à-dire, le Rav Ashkenazi, le Rav Manitou disait, il y a deux prénotes, il y a Yaakov et Israël. Hein? Il y a Yaakov et Israël. Yaakov, c'est le juif qui va être en exil. C'est-à-dire, Yaakov, c'est très facile d'être Yaakov. C'est-à-dire, c'est très facile d'être Yaakov. Pour tous les juifs du monde entier, c'est très facile d'être Yaakov parce qu'on sait ce que c'est Yaakov. C'est quoi être Yaakov? Être un juif dans un état qui n'est pas le tien. C'est-à-dire, continuer à faire Torah, mitzvot, Shabbat, la kashrout, etc., etc. Ce qui est beaucoup plus difficile, c'est d'être Israël. C'est quoi d'être Israël? C'est prendre la place de Esav. C'est de rentrer en Israël, d'avoir un état, d'avoir une armée, d'avoir un politique, d'avoir un Beth Amikdash, d'avoir un temple, d'avoir la prophétie, etc. Ça, ça va être très difficile. On a passé plus de temps à être Yaakov qu'être Israël. Maintenant, même si c'est que de la survie, vivre sans la terre d'Eretz Israël, ce n'est pas le but, ce n'est pas la perfection, mais c'est possible. Tandis que vivre sans la Torah, c'est impossible. La grande peur de tous nos sages, à toutes les époques, avait peur que le Ham Israël quitte la Torah. À partir du moment où on quitte la Torah, c'est fini. On quitte la Torah, le Ham Israël n'existe plus, Chas v'Shalom. Tant qu'on était, écoutez cette phrase très simple, tant que le Ham Israël, tant qu'il était à Babel, même s'il était en dehors de son pays, mais il avait un centre de Torah, alors on n'a pas senti la douleur et la souffrance de l'exil. On sentait que notre nation pouvait perdurer dans le temps. On avait un centre de Torah, nos sages nous dirigeaient, tout va très bien, mais on va s'en sortir. Et les Shana Abba Birushalayim, et on reviendra facilement à Jérusalem. À partir du moment où l'Am Israël a commencé à être méfousa, à s'éparpiller dans l'exil, c'est une expression d'un affaiblissement de la Torah, où la Torah elle va être répartie dans le peuple d'Israël, et on a une peur terrible qu'il va avoir Shtei Torot. Shtei Torot, c'est une expression qui veut dire deux Torahs. On ne va plus avoir du tout la même Torah. Les minhagim, c'est autre chose. Les coutumes, c'est différent. Tout le monde est d'accord qu'il y a la Torah, mais il va y avoir différentes façons de réaliser ça. Mais tout le monde est d'accord de cette Torah. Mais on a eu peur que quand il y a eu le pizour, l'éparpillement, ce qu'ils appellent la diaspora, mais on n'aime pas ce mot, la dispersion du peuple d'Israël à travers les exils, c'était une expression de l'affaiblissement total de la Torah. Parce qu'on risque d'avoir, de retrouver des communautés qui sont totalement différentes au niveau de leur comportement. Or, la Torah, c'est notre neshama. La Torah nous dit dans vers Dvarim, Hayom Azé Niyetaleam. C'est quoi Hayom Azé Moshe Rabbeinu du Ham Israël? Hayom Azé, ce jour-là du don de la Torah, il parle de Shavuot, il parle de Matan Torah, Niyetaleam. C'est comme ça que tu es devenu peuple, c'est en recevant la Torah. Ce peuple-là, il doit se réaliser dans un corps, qui est la terre d'Israël, pour réaliser pleinement son mission, c'est clair. Mais il existe parce que sa neshama, c'est Torah. Première étape. Deuxième étape. On est aujourd'hui le Yud Alef Cheshvan, c'est la Hiloula de Rachel Menou. Rachel Menou, c'est exactement ça. Elle pleure quand le Ham Israël a été dispersé parmi les nations, quand il est parti en exil. Et qui manquait cette hardoute, cette unité, ce rassemblement-là. Il y a un danger dans ce rassemblement. Et il s'est passé la catastrophe suivante. Oui, l'homme Israël de Babel, il est éparpillé et il va partir dans plein d'exil et les Juifs vont être éparpillés dans le monde. Et là, après l'époque des Géonies, on est en l'an 1900, etc., il va avoir un pizour. Et c'est exactement ce que Haman, Imarchem Ovushem Zichro va dire. Yeshno Amerad, il y a un peuple, il y a cette unité dans ce peuple-là, il reconnaît l'unité du peuple d'Israël, mais il est Mefouza ou Mefourad Ben Ami, mais il est éparpillé et dispersé parmi les nations. Lorsqu'il va avoir cet éparpillement, Akadosh Baruch Hu ne laisse jamais le Ham Israël. Qu'est-ce qui va se passer? Le Ravad, Ravad Arishon, le Ravad premier, Ben Daoud, pas le Ravad Avraham Ben David. Rabbi Avraham ben Daoud, bon, Daoud et David, c'est proche, mais ce n'est pas les mêmes. Le Ravad qu'on voit sur le Rambam, c'est Ravad de Posquière, en France, en Provence. Le Ravad ici, c'est en Espagne. Il raconte l'histoire des Arba'at Ashvouim, des quatre kidnappés, des quatre prisonniers. De quoi on parle? On parle qu'au moment justement où le Ham Israël s'est dispersé dans les nations, est parti en exil parce qu'il y a un problème d'argent, il devait se nourrir, etc. Au niveau politique, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui fait cette action. Non, faites très attention. C'est Hachem qui entraîne ça. Rien ne tombe entre les doigts d'Akadosh Baruch Hu. C'est Hachem qui entraîne cette galoute. Mais en même temps qu'il entraîne sa galoute, il va préparer la Géoula. De quelle manière? Il va avoir, depuis la ville de Bari en Italie, à l'est, sud-est d'Italie, il va avoir quatre Géonim et leur famille, une partie de leur famille, qui partent en bateau pour récolter de l'argent en Eretz Israël. C'est-à-dire, on est dans les années 800-900. C'est des Géonim. C'est quoi un Gaon? Il connaît toute la Torah. C'était eux qui faisaient partie de ces grands yeshivot à Babel. Ils partent sur un bateau. Lorsqu'ils arrivent sur la mer Méditerranée, ils sont pris par des pirates. Les pirates vont vendre ces Géonim, ils vont vendre à la ville d'Alexandrie, les juifs de la ville d'Alexandrie vont faire pidyon juim, vont racheter ces prisonniers. Donc il y a un des Géonim qui va en Égypte, Alexandrie. Il va avoir à Kairouan, en Tunisie, ils vont aussi racheter pidyon juim, ils vont racheter un des Géonim, donc la Tunisie. Et il va avoir un troisième en Sfarad, en Espagne. Et le quatrième, les Chachamim ne savent pas exactement où il est arrivé. Mais là, on va avoir trois Mokdim, trois foyers, trois centres de Torah qui vont se dévoiler en Égypte, en Tunisie, Afrique du Nord, donc aussi du côté de Djerba, etc. Kairouan, c'est entre Tunis et Djerba. Okay. Donc, la Tunisie, l'Afrique du Nord, en tout cas, et Sfarad. Et l'Espagne. Et là va se développer la Torah d'Israël. On est à l'époque des Goni.
Rav.
Ken.
Et le Rabbeinu Gershom en Ashkenaz, c'est pas un des quatre?
Rabbeinu Gershom, c'est pas des quatre, c'est un peu plus tard.
Plus tard. Donc, comment ils sont arrivés en Ashkenaz, on ne sait pas vraiment.
Ashkenaz, ils sont arrivés, il y en avait depuis, comme j'ai dit, depuis Ezra, il y en avait. Okay. Mais c'est trois Géonim. D'après le Ravad, qui a écrit un Sefer Kabbalah, qui explique justement comment la transmission de la Torah s'est faite, c'est eux qui vont permettre à ces exils différents de continuer la Torah, pas de reconstruire, eux, les Gaonim, ils connaissaient cette Torah. Ils vont continuer la Torah qu'ils avaient en Babel et la ramener vers l'Égypte, l'Afrique du Nord et Sfarad. Quand ça se passe, il y a un affaiblissement spirituel des communautés, parce qu'on est en exil, affaiblissement de la Torah, mais Akadosh Baruch Hu envoie ses Gaonim. Et Akadosh Baruch Hu fait une deuxième étape. C'est quoi la deuxième étape? Là où le monde philosophique s'élève, les pensées philosophiques s'élèvent, où les chrétiens font des guerres et font la conquête, ils vont faire les croisades, ils vont vouloir conquérir le monde, et l'islam va aussi vouloir conquérir le monde, Akadosh Baruch Hu va emmener une neshama particulière. Souvent, chez les historiens, ils se posent souvent la question, est-ce que c'est les événements qui font les héros ou c'est le héros qui crée la période? Est-ce que la période de l'histoire, c'est elle qui a formé les héros ou non, c'est le héros qui a transformé l'histoire? Chez nous, dans la Torah, c'est clair, c'est le héros, le gibor, qui va transformer l'histoire. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, comme nous dit le Midrash, Akadosh Baruch Hu a vu qu'il y avait très peu de tzadikim. Il a fait le compte depuis le début de la création jusqu'à la fin de l'histoire. Il a vu qu'il y avait très peu de tzadikim. Alors le Midrash, il dit, chez Talam, il les a plantés dans chaque génération. Au lieu de mettre toute une période avec que des tzadikim, il les a plantés quand il veut dans chaque génération. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il sait à quel moment faire apparaître tel tzadik. Le tzadik, il est venu parce qu'il est le Gdol Ador, le grand qui va faire grandir la génération dans laquelle il se trouve. Et ce n'est pas par hasard que le Rav Etzraïm est venu à son époque, et ce n'est pas par hasard que le Rav Kook est venu à son époque, parce que c'était une âme qui était grande pour venir et expliquer la Torah, de quelle manière elle s'est dévoilée à l'époque où elle s'est dévoilée. Ce n'est pas par hasard que le Baal Shem Tov, il est venu à l'époque où l'âme Israël était justement en chute au niveau spirituel et qui avait besoin d'un approfondissement de la Torah grâce à la Chassidut. Et qu'est-ce que va faire Akadosh Baruch Hu, 11e siècle? Il va emmener une neshama énorme qui s'appelle Rabbi Yehuda Alevi. Et ce Rabbi Yehuda Alevi, alors qu'on est à une époque où la philosophie explose, où la chrétienté explose, l'islam explose, tous ces courants, le Ham Israël est affaibli spirituellement, matériellement, exilé, dispersé, non connaisseur de sa Torah, plus de centre d'études qu'on a à l'époque, la Gemara, les Gaonim, etc., etc. Akadosh Baruch Hu envoie la solution par Rabbi Yehuda Alevi. Et Rabbi Yehuda Alevi va se concentrer sur trois sujets dans le Kuzari. Et ça, c'est important pour comprendre pourquoi ce livre. Il va se concentrer, premier sujet, il va parler de Am Israël. Am Israël. Bien avant les mitzvot, avec la Torah, mais qui est Am Israël? Cette spécificité du Am Israël, contrairement à toutes les religions. Deuxième sujet qu'il va traiter, Geoulat Israël, la libération d'Israël. Et troisième sujet qu'il va traiter, c'est Eret Israël. Ces trois sujets-là, Am Israël, Eret Israël, la terre d'Eret Israël, le pays, la Shana Abba Birushalayim, le retour en Eret Israël, et comme ça se finit le livre. Le livre se finit par la montée de Rabbi Yehuda Alevi en Eret Israël. À la fin du livre, il monte en Eret Israël. Et c'est ce qu'il va faire de son vivant. Il va monter en Eret Israël. Il va mourir là-bas. Mais il va monter en Eret Israël. Et donc, bien sûr, ce retour en Eret Israël, la terre d'Eret Israël, ce retour, la Géoula, de quelle manière la Géoula d'Israël, c'est-à-dire le Mashiach. Pourquoi il parle de ces trois sujets? Parce que c'est exactement ce que, ou les philosophes, en criant haut et fort que le divin n'existe pas, ou la chrétienté et l'islam qui crient « Nous sommes le verus Israël, nous sommes le vrai Israël, et c'est par nous qu'on va sauver le monde pour emmener le Mashiach », le Rabbi Yehuda Alevi va faire un combat de quelle manière? Pas avec des épées, pas avec des avions, comme on peut faire aujourd'hui, qu'il faut faire ça aujourd'hui, mais au niveau de la pensée. Il a emmené Akadosh Baruch Hu Sed Neshama pour écrire le livre du Kuzari pour sauver le Ham Israël. La solution existe. Et dans l'Am Israël, quand la solution existe, on est rassuré. Parce que ça prendra des années, mais on a la solution. Le Gaon de Vilna, et là ça se complique, on est au 11e siècle, Gaon de Vilna c'est 18e siècle, début 18e siècle, il va dire à tous ses élèves, que le Sefer HaKuzari, Slicha, qui conseillait d'étudier Chovot HaLevavot de Rabbi Bachia Ben Pekuda, le comment s'appelle Chovot HaLevavot, Devoir des cœurs, donc c'est un livre de base de Emouna, mais il disait, mais Sha'ar HaYichud, le chapitre qui parle des preuves de l'existence de Dieu, à la place de Sha'ar HaYichud, il disait qu'il faut lire et étudier Sefer HaKuzari de Rabbi Yehuda Halevi, parce qu'il est kadosh v'taor, parce qu'il est kadosh, saint et pur. Ve ikare emunat Israël v'Torah pluim bo. Et l'essentiel de la emunat d'Israël et de la Torah dépend de ces livres. Qu'est-ce que ça veut dire dépend de ces livres? Il dépend de ces livres, c'est-à-dire que si tu veux comprendre Israël et Torah, ikare emunat, l'essentiel de la emunat, tu es obligé de lire ce livre. Gaon de Vilna. Gaon de Vilna, ce n'est pas un conseil. Tu as du temps à perdre, tu as du temps libre, tu veux avoir des bonnes connaissances, étudie, mais c'est déjà le Kuzari. Non, Ikare Emunat Israël, l'essentiel de la Emuna. Sinon, une personne ne va pas avoir l'Emuna. Comment c'est possible? Il fait toute la mitzvot, il fait toute la Torah, il étudie la Gemara. Si tu n'as pas étudié Sefer HaKuzari, tu as des manques de compréhension de ce que c'est Israël et Torah. Et Akadosh Baruch Hu nous a pas laissé. On y va. On a sur 1000 ans. Il y a 1000 ans, Rabbi Yehuda Halevi. Au milieu, 400 ans plus tard, il va emmener une autre Neshama qui va continuer ce que Rabbi Yehuda Halevi a commencé, qui s'appelle, allez-y vous,
c'est pas le bon.
Alors, Rabbi Yosef Albo, c'est hyper, c'est plutôt au XVIIe siècle, au début du XVIIe siècle, fin du XVIe, début du XVIIe, le Maharal.
Maharal
Miprag. Ok, Maharal Miprag. Moreno arabe, il s'appelle aussi Yehuda, et c'est aussi un Lévi. Bon, c'est-à-dire, peut-être il y a un micré, peut-être il n'y a pas de micré, chacun il décidera. C'est aussi un Lévi, et lui va continuer dans son œuvre encyclopédique de Emouna. Il va continuer. Israël, il va parler d'Israël, du Ham Israël. Il va parler aussi des Rets Israël, de la Géoula. Et c'est lui qui va continuer ce que Rabbi Yehuda Lévi a commencé. Maintenant, c'est très dur de voir ça. Mori et Rabbi, Rabbi Yehoshua Zuckerman, Zichrono Livracha, Zecher Tzadik Livracha, il disait la Mishnah, écoutez bien ça, la Mishnah. La Mishnah, c'est très concis, très résumé. D'accord? Et la Gemara, c'est, on explique tout, c'est énorme la Gemara. C'est le Talmud. Il disait la Mishnah de la Emouna, c'est Kuzari. C'est le livre de Rabbi Yehuda Halevi. Les cinq livres, les cinq discours qui sont dans le Kuzari, c'est l'essentiel de la Emouna en petit, en raccourci, en résumé. La Gemara, le Talmud de la Emouna, c'est le Maharal de Prague. C'est-à-dire? Donc, on y va. Il y a 800 ans, Rabbi Yehuda Halevi. Il y a 400 ans, le Maharal de Prague, en plein milieu de la galoute, de cette galoute. Parce que quand commence Rabbi Yehuda Halevi, c'est le début de la difficulté de la galoute. Après, pourquoi Maharal de Prague? Vous avez compris, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est fou. Korea de Roth Mirosh, il y a un passage qui dit Hachem, il lit les générations avant. On part en galoute. On était le Merkaz, écoutez bien, on était le Merkaz, le centre en Bavel. Le Ham Israël explose dans le monde, part de Bavel. Mais il va encore se concentrer Égypte, il va se concentrer Syrie, il va se concentrer Afrique du Nord, Tunis, Djerba, etc., même Alger, Sfarad. Et ensuite, il va Rahmé Provencia, les Stages de Provence, en Europe, etc. Quelle est la deuxième fois où il va avoir une explosion de l'exil après l'acquisition des Juifs d'Espagne? Puisqu'en Espagne, il va avoir la grande communauté qui va être là. Et en 1492, il va avoir un deuxième exil. Là, d'après les sages, c'est le point le plus dur de la galoute.
15e.
Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Il envoie une autre Neshama. C'est qui? C'est la Neshama du Harizal, c'est la Neshama Rabbi Yosef Karo, mais ça va se dévoiler par l'écrit dans les Neshamas du Maharal de Prague. Là aussi, au même intermédiaire, au même après cette explosion de l'inquisition des Juifs d'Espagne, il va avoir la Neshama du Maharal de Prague qui va nous expliquer les fondements de notre Emouna pour nous faire tenir pendant cette galoute encore plus difficile qu'à l'époque de Rabbi Yehuda Lévi. Et à la fin, quand le Ham Israël est à la fin de la galoute, qui l'envoie à Kadosh Baruch Hu? Quelle âme il envoie à Kadosh Baruch Hu? Le Chafetz Chaim, Nachon, mais qui va expliquer ce qui se passe au niveau de la Emouna? Le Rav Kook. Les Cohen. Alors, Bichlal, on s'est élevé encore à un autre niveau. Rav, Avraham.
Voilà, Rav.
Oui.
Rav, le Maharal, de son vivant, il n'était pas très connu, non? Ce que j'ai compris.
Mais même Rabbi Yehuda Lévi, il n'est pas connu. Il est connu que des sages. Le peuple ne connaît pas Rabbi Yehuda Lévi. Mais autre part, je répète, Rabbi Yehuda Lévi, pendant 1000 ans, personne ne l'a étudié. Le Maharal de Prague, pendant 400 ans, personne ne l'a étudié. C'est seulement aujourd'hui qu'on étudie ça. Vous savez que le Maharal de Prague, il a été étudié seulement par les Admourim, par ceux qui étaient les chefs des Hassidim. Eux, ils étudiaient le Maharal de Prague. Personne n'étudie le Maharal de Prague. Mais dans même Israël, c'est tout le temps comme ça. Le sage, à partir du moment où il a mis par écrit la solution, après, ça va être transmis, ça va prendre 1000 ans, ça va prendre 1000 ans. Mais on a la solution, donc c'est bien. C'est un peu par exemple l'histoire de Jacob, l'histoire de Hanouka. Tu te balades, tu apprends l'histoire de Hanouka. Ouais, c'est quoi l'histoire de Hanouka? Il y avait des Grecs. Qu'est-ce qu'ont fait les Grecs? Ils ont fait l'athlétisme, l'art, la culture, l'esthétique avant l'éthique, etc., etc. Tu te balades dans la rue, tu vois un stade. Tu te balades dans la rue, tu vois une université. Tu te balades dans la rue, tu vois un sénat. Tu vois tout ce que les Grecs ont fait. Tu dis quoi? On a gagné, on a perdu. On a gagné. Même si extérieurement, tu vois l'influence grecque, mais nous, on a trouvé la solution à Hanouka, on a la solution. Il faut la travailler, il faut la dévoiler, il faut la mettre par écrit, il faut la réaliser à notre niveau, mais on a la solution. Le changement qu'il y a eu dans la Toda, dans la prise de conscience de nos sages à l'époque de Hanouka, grâce aux Grecs, on a compris quelque chose. Maintenant, il faut le réaliser. Mais on a la solution. Étudie la Torah, tu auras la solution contre la Grèce. Mais la Grèce, elle est là, la Grèce, elle est présente, la Grèce, elle est à 1000% ici. Non, mais on a la solution. Le Maharal de Prague, il n'a jamais été étudié, mais on a la solution. Et la preuve, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on réétudie le Maharal de Prague. Aujourd'hui, sur Internet, voilà, on étudie Rabbi Yehuda Lévi, on étudie le Maharal de Prague. Et donc, le Rav Zugerman disait, la Gemara de Emouna, c'est le Maharal de Prague. Et il finissait, la Halacha, le Shulchan Aruch de la Emouna, c'est le Rav Kook, qui est venu à la fin de la Galoute, dans ce passage de Galoute Geoula, dans ce passage d'exil et de libération du retour en Eretz Israël. Et il te donne la halakha, la marche à suivre, comment réaliser cette émouna qui était en attente, en étude uniquement pendant 1000 ans, comment on doit la réaliser aujourd'hui concrètement sur notre terre. C'est-à-dire? Donc ça, c'est très important. C'est le Beta Midrash quand nos élèves, nos maîtres, nous ont enseigné le Kuzari. Ils l'ont reçu du Rav Yehuda, qui a reçu du Rav Kook, lui, et qui se dit directement que la continuité de Maharal de Prague et Rabbi Yehuda Lévi. Facile. C'est pas on ouvre un livre, une chose intéressante, j'ai vu des choses intéressantes dans le monde des yeshivot. Maintenant, un peu, il y en a qui étudient un peu le Kuzari. Ah, c'est intéressant le Kuzari. Non, t'as pas compris, le Gaon de Vilna, il te dit c'est l'essentiel. J'ai un copain à moi de yeshivot qui ne sont pas du tout dans notre courant. Il voulait se mettre au courant du Kuzari. Il a lu le Kuzari, il dit, mais c'est facile, c'est des histoires. Pourquoi tu passes autant d'heures? Pourquoi? Parce que la différence, tu peux passer à côté des choses. Si tu n'as pas reçu des maîtres qui ont reçu et qui sont remplis de Maharal de Prague, qui sont remplis de Torah profonde, alors tu peux passer à côté des choses essentielles du Kuzari. Ça là? Maintenant, le Kuzari va mettre en avant l'essentiel de la Emouna. Et c'est comme ça qu'il va commencer. Alors, regardez comment il va commencer.
Pourquoi le WhatsApp de mon...
Attendez. Ciao, Queen.
Pourquoi j'ai un problème aussi.
Aïe. 2 secondes. Donc, le roi des Khazars, comment c'est que ça? Voilà. Le roi des Khazars. Vous voyez le texte ici? Tac, tac, tac. Est-ce que vous voyez le texte? Anachnu ma'aminim.
Oui, Ken.
Oui? Yud Aleph. Vous voyez Yud Aleph? Ok. Donc ça, c'est la base. La base, Rabbi Yehuda Lévi va faire en sorte que le roi se désespère de l'islam, se désespère de la chrétienté et se désespère, bien entendu, de la philosophie. Et il pose la question au Yehudi. Yehudi, c'est très, très péjoratif dans le langage du roi des Khazars. Il va se tourner au Haver. Haver, c'est le Talmid Chacham, c'est le sage. Et il lui répond, donc le rabbin, on va appeler le rabbin. En fait, c'est comme je vous ai expliqué, c'est Rabbi Yehuda Lévi. Lui-même, il va dire « Anachnu ma'aminim b'Elohe Avraham Yitzhak Yaakov moti etrem meret Mitzrayim et ben Israël mi Mitzrayim. » Nous avons la Emouna dans le Dieu d'Avraham Yitzhak Yaakov qui nous a fait sortir d'Égypte « Be'otot u'moftim u'memassot » par des signes, des prodiges et toutes sortes de miracles « U'mechalkam b'amidbar » qui nous a nourris dans le désert « Amantrilim et Eretz Kenaan » qui nous a fait conquérir le pays de Kenaan. Après nous avoir traversé la mer et le Jourdain avec de gros miracles, Shalach Moshe Betorato, il nous a envoyé Moshe avec sa Torah, et ensuite des milliers de Nevi'im qui nous mettent en garde de la Torah, Miyadim Iglulato le Shomra, qui nous disent qu'on aura un bon salaire lorsque, si on réalise les paroles de la Torah, et des punitions, si l'inverse. Et nous croyons, nous avons la Emouna dans tout ce que est marqué dans la Torah. Il a fait mort. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer une chose terrible pour le roi des Khazars. Le roi des Khazars, par la philosophie, cherchait une raison logique de l'existence ou de savoir est-ce que Dieu désire des actes parfaits. Rappelez-vous, il a désespéré du philosophe qui dit Dieu n'existe, Dieu s'intéresse pas à toi, même s'il existe, il s'intéresse pas à toi. L'islam et la chrétienté, chacun a raconté des histoires qui ne se sentaient pas concernés par ça. Mais tous commençaient par, et c'est ça le chidouche, tous commençaient par dire « Je crois au Dieu qui a créé le ciel et la terre. » Il y a un Dieu qui a créé le ciel et la terre. Maintenant, quand j'étais petit, j'avais déjà raconté ça parce que c'est pas chou, me dit « Tout ce que tu as vu dans ton enfance, c'est Kadosh Boro, tac, il a fait exprès. » J'avais 12-13 ans, on voyageait en voiture d'Aix-en-Provence à Marseille pour aller étudier au collège à Marseille. Et il y avait une personne dans la voiture qu'on accompagnait. Et il dit la chose suivante. Il dit, il y a un rabbin d'Israël qui vient de Bethel. Donc, c'est Israël que je connaissais, mais Bethel, je ne connaissais pas. Il vient de Bethel. Il a commencé à étudier, nous enseigner le livre du Kuzari. Kuzari, c'est un nom bizarre. Ça fait quoi, Kuzari? C'est juif, ça. Ken, il dit, c'est un rabbin qui parle avec un roi goy et qui va réussir à le convertir. Et il nous dit, pour passer le temps sur la route, il dit, et tu sais ce qu'il lui dit? Il lui dit... Moi, notre foi, notre croyance, c'est au Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. Et il n'a pas dit au Dieu qui a créé le ciel et la terre et qui nous a fait sortir d'Égypte. Et ça m'est resté des années, jusqu'à ce que 10 ans ou 8 ans plus tard, à la Yeshiva, on ait étudié cet Akuzari. J'ai dit, ah, mais je me rappelle ce nom, etc. Et à Kadosh Baruch Hu, regardez comment il fait les choses. Maintenant, pourquoi c'est important cette histoire? Quand il dirait que j'avais besoin de ça pour que ça devienne plus mature dans ma pensée infantile, mais pour dire la chose suivante. Rabbi Yehuda Lévi, d'après les historiens, soit son beau-frère, ou soit le beau-père ou soit son beau-père, bon, il y a des machlokotes, c'était Rabbi Avraham Ibn Ezra. Ok? Rabbi Avraham Ibn Ezra et Rabbi Yehuda Lévi, ils sont liés par alliance. Maintenant, Rabbi Ibn Ezra, c'est un génie de la Torah. Quand vous regardez son commentaire sur la Torah, donc lui aussi, il est en Espagne, à la même époque de Rabbi Yehuda Lévi, c'est 3-4 lignes. Tu regardes qu'est-ce qui est difficile dans Rabbi Avraham Ibn Ezra? C'est 3-4 mots pour te dire une bombe atomique. Hein? Des fois, on compare le Rav Cherki avec Rabbi Avraham Ibn Ezra, parce que Rabbi Avraham Ibn Ezra, c'était ma part comme ça. Il était, il dit des choses que tu ne t'attends pas et il te renverse tout. Et là, quand tu vois Rabbi Avraham Ibn Ezra, sur son commentaire de la Torah au sujet de Anochi Hashem Elokecha, le premier diber, la première parole des 10 commandements, qu'est-ce qui est dit dans les 10 commandements? Anochi Hashem Elokecha, Sherotzitira Meret Mitzrayim. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Et l'Arabie Avraham Ibn Ezra, regardez comme c'est magnifique. Rabbi Avraham Ibn Ezra me dit, il y en a qui vont poser la question, comment se fait-il que Hachem ne s'est pas présenté aux enfants d'Israël lors du don de la Torah en disant « Je suis l'Éternel, créateur du ciel et de la terre. » Ani, Anochi Hachem Elokecha, Bore Shamaim Vaharetz, le créateur du ciel et de la terre. Et tu vois que Rabbi Avraham Ibn Ezra, quatre pages dans son commentaire sur la Torah pour expliquer le pourquoi du comment qu'il fallait commencer par ça. Mais qui lui a posé la question ? Rabbi Yehuda Halevi. Rabbi Yehuda Halevi lui a posé à Rabbi Avraham Ibn Ezra cette question. Pourquoi Hachem, lorsqu'il s'est dévoilé, il a dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. » Pourquoi il ne s'est pas présenté en Dieu créateur ? Et de là, tu vois qu'à l'époque de Rabbi Yehuda Halevi, il cherchait lui-même. Ce n'est pas qu'il avait une histoire, il cherchait Torah. Il cherchait ce que Hachem nous enseignait lorsqu'il nous a dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. » Il aurait dû marquer « Créateur du ciel et de la terre. » Et sur ça, Rabbi Yehuda Halevi nous donne cette perle extraordinaire. Il nous dit « La Emouna, ce n'est pas une connaissance de l'intellect. La Emouna, c'est une connaissance qui dépasse l'intellect. La Emouna, c'est quelque chose qui est une expérience de vie sur laquelle tu vas dévoiler par rapport à laquelle tu as une certitude de vie. Ce n'est pas des présomptions, ce n'est pas des suppositions, c'est une réalité à laquelle que tu as rencontré. Et le Ham Israël, lorsqu'il est sorti d'Égypte, je peux vous assurer qu'il n'était pas pendant la création et qu'il n'a jamais vu Akadosh Baruch Hu créer le monde. La seule chose qu'il a pu voir, c'est qu'il est sorti d'Égypte. Ça, il a vécu. Sur ce qu'il a vécu, la névoie, la prophétie va expliquer ce qu'il a vécu. Et là, vous avez la perle de Rabbi Yehuda Halevi, qui veut nous aider à découvrir. L'Emouna, c'est cette certitude intérieure qui vient d'un vécu expérimenté. Et la prophétie va nous expliquer le vécu et le véhiculer par le peuple d'Israël. C'est un peu difficile, mais on n'est qu'au début. Bezala taché. Shavua Tov Shilachem.
Shavua Tov Arab, merci beaucoup. Toda Rabba. Et voilà. Shavua Tov Arab.
Fantastique.